France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus ce matin dans la tête d'un peintre de génie, le maître du clair-obscur, né en 1571, mort en 1610. Une gigantesque exposition lui est consacrée en ce moment même à Rome où l'on revient pour parler du Caravage. Et pour justement cerner ce peintre extrêmement complexe et génial, j'ai le bonheur de recevoir un écrivain amoureux de sa peinture, auteur de La Solitude Caravage, qui est disponible en folio. Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Et bienvenue. Comme tous les vendredis, on va démarrer avec une expérience de pensée. Je le disais, on retourne à Rome, non pas au Vatican, mais au palais Barberini. Et on est face à un tableau du Caravage qui est saisissant. Un tableau qu'il a peint en 1599. Judith décapitant Holoferne. C'est une expérience que vous avez faite, que vous avez vécue, qui vous a marqué quand vous aviez 30 ans. Qu'est-ce qu'on voit, Yannick Hennel, lorsqu'on est devant ce tableau-là?
Alors, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui déchire le visible, qui déchire le réel. En l'occurrence, une épée. On est sur fond noir, avec un rideau cramoisi, très écarlate, très rouge, comme au théâtre. Et une femme, corsage blanc, cheveux très clairs, les sourcils froncés, qui tient à bout de bras une épée, elle est en train de trancher la tête, effectivement, du général assyrien Holoferne, dont l'armée était en train, à l'époque, c'est raconté dans la Bible,
oui,
d'assiéger la ville de Béthulie. Et Judith se sacrifie, si je puis dire, va devenir une sainte, au fond, puisqu'en se réappropriant la violence dont elle et ses camarades étaient l'objet, elle va délivrer Béthulie, elle va délivrer le peuple juif. C'est ce qu'il y a de fou dans ce tableau. Il y a également une servante sur la droite qui tient déjà, en grimaçant, un sac dans lequel on imagine tout de suite, dès qu'on est face au tableau, que la tête d'Holoferne va y prendre place.
Oui.
Ce qu'il y a de saisissant, c'est la violence extrême et l'érotisme extrême de cette femme puissante qui tue un homme.
Alors, c'est une femme qui est puissante. Vous en êtes même tombé amoureux, en l'occurrence. Il manquait une partie du tableau. Vous ne voyiez pas ce qu'elle faisait, Judith. Mais c'était son visage, son buste. Vous ne saviez pas que c'était une criminelle. Et vous écrivez, cette femme que je croyais connaître comme une amante était en réalité une tueuse. Elle décapitait un homme devant moi. Comment avais-je pu ne pas voir que sous la belle personne qui pimentait mes rêveries sévissait une criminelle? Elle tue. Mais vous écrivez qu'en réalité, c'est un ange. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir que c'est ça justement dont nous parlent les tableaux de Caravage, Yannick Hennel.
Oui, parce qu'effectivement, 15 ans plus tôt, j'étais adolescent, à 14-15 ans, je n'avais vu qu'un petit détail, vous savez, même en noir et blanc, dans les mauvais livres d'histoire de l'art de l'époque, des années 80. Et j'avais été troublé, en fait, tout simplement, par le buste, le corsage ouvert, le froncement de son corsage, de cette femme.
Sous une étoffe légère.
Effectivement, avec cette espèce d'humidité dont je ne comprenais pas qu'elle émanait d'un effort terrible. Et puis cette petite perle, cette boucle d'oreille nouée par un papillon noir qui m'a poursuivi durant des années. J'ai fantasmé sur cette femme. Et donc 15 ans après, comme on le disait, quand je l'ai vue au Palazzo Barberini, j'ai compris en riant, mais en riant jaune, que cette femme qui représentait pour moi Eros à l'état pur...
Oui.
était en train de tuer un homme auquel et là les psychanalystes vont rire, auquel je me suis évidemment identifié. J'étais le pauvre garçon qui se faisait tuer pour son désir. Mais effectivement, les tableaux du Caravage, c'est ça, c'est Eros et Thanatos, c'est notre condition même où la mort et le désir sont indissociables.
Vous écrivez, Yannick Hennel, que ce tableau, ce qui vous parle dans ce tableau, c'est un monde comme le nôtre d'où c'est retirer Dieu, s'éclaire pourtant à sa lumière. C'est une journée très paradoxale pour parler de cette scène et de ce tableau qui est justement à Rome et qui est si important pour raconter cette scène de la Bible. Un monde d'où s'est retiré Dieu et qui s'éclaire pourtant à sa lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben c'est tout le paradoxe pour moi, c'est ça que je trouve génial dans la soixantaine de tableaux du Caravage, enfin, qui en fait un peintre très contemporain. C'est que... cette noirceur terrible des fonds de tableau et de cette violence du sacré, tout à la fois dans un même geste, nous rapproche, par la spiritualité, d'une divinité, au fond, et en même temps semble la nier, en fait. C'est absolument indécidable de savoir si le Caravage croyait en Dieu ou non. Je pense qu'au fond, ça n'existait pas, être athée en 1600,
oui.
Mais c'était quelqu'un qui n'allait jamais s'agenouiller devant quelque pouvoir que ce soit, et surtout pas un pouvoir religieux.
Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que le Caravage, c'est le monde entier ?
Mais c'est parce que... chez tout grand peintre, je crois, c'est valable pour Rembrandt, Titien, Francis Bacon et d'autres, Artemisia Gentileschi, qui a peint aussi Judith et Holoferne.
Suite du Caravage, d'ailleurs.
À la suite du Caravage, oui, elle l'a sans doute connu, son père était un intime du Caravage. Dans la peinture, plus encore que dans la littérature, je le dis de manière presque douloureuse, puisque j'écris des livres, je crois que la peinture est supérieure dans la manière dont elle rend visible l'invisible. Voilà, il y a tout. Il y a les détails, évidemment. Chez le Caravage, on a à la fois on a la rue, en fait, avec les petits ragazzi, les gitons, enfin, on a des natures mortes comme jamais elles n'ont été peintes.
Il y a des poires, il y a des figues, il y a des culs, il y a des saints, il y a Dionysos, c'est un peintre complet et il y a de très nombreuses scènes de la vie religieuse et notamment des commandes faites par des papes au Caravage dont on se demande ce qui les poussait à lui donner autant d'argent pour faire des scènes aussi violentes, aussi apparemment effrayantes.
Ben c'est la contre-réforme, hein. Le catholicisme veut s'entourer à ce moment-là d'un faste, et c'est la famille Borghese, ils sont absolument amoureux aussi pour des raisons économiques,
oui.
La peinture, on peut admirer tout ça en ce moment à Rome et à la Galleria Borghese, et le pape qui va défendre, d'ailleurs, on parlait de pape depuis, je vous écoutais tout à l'heure.
Oui, depuis 5 heures du matin.
Voilà, le pape qui va défendre le Caravage, c'est un Borghese, c'est Paul VI, si je me souviens, il y avait Clément VIII avant, puis Paul VI qui est un Borghese. Et voilà, il y a, et chez le Caravage, mais aussi dans la papauté, pas une contradiction, mais quelque chose qui ne peut pas se concilier entre le profane et le sacré, mais c'est l'époque de la Rome baroque, et je trouve que c'est aussi un peu notre époque, enfin, ce désordre que le spirituel interroge. Dieu, pas Dieu,
le morale, profane, pas de le morale. Sacré.
Exactement.
Vous nous donnez à voir, vous nous donnez à voir en vous lisant Yannick Enel, on va aussi retrouver à travers le son une manière de parler d'une peinture, du clair-obscur et du Caravage. Forgive us now for what we've done. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Nick Cave, que j'adore. Et c'est un
gospel.
J'aime, c'est un gospel, oui, il s'appelle O Children.
Alors justement, ce qui est extraordinaire, c'est que le Caravage, là, on l'entend dans le son et la voix de Nick Cave, c'est un rapport à la lumière qui est hors du commun. Son nom, il est aujourd'hui associé à deux mots qui en font qu'un, clair-obscur. Et vous dites que le clair-obscur n'est pas son lieu pour rien. Il n'aime rien tant que tremper sa couronne dans le caniveau, non pas pour s'encanailler, mais parce que sa vérité réside autant dans la boue des nuits que dans l'or de sa peinture. Le clair-obscur, comment est-ce qu'on peut le définir ? Qu'est-ce que ce noir qui vient envahir les tableaux du Caravage et qui définissent à la fois son génie et un style qui sera imité ensuite pendant des siècles ?
Je pense que le clair-obscur, c'est vraiment le lieu de l'ambiguïté du désir humain, un désir vers l'absolu, d'une lumière qui peut-être nous sauverait,
ouais.
Mais aussi un désir pour quelque chose qui nous enfonce dans la pesanteur humaine. Il y a à Rome, dans l'église des Français, enfin San Luigi dei Francesi,
ouais.
il y a ce tableau où on voit le Christ qui tend le bras et en fait, il coupe les ténèbres par son bras en désignant quelqu'un qui va devenir l'un des apôtres, il tranche dans les ténèbres, il crée de la lumière juste par son bras. Et moi, j'y vois, chaque fois que j'y vois le bras du Caravage aussi, c'est le pinceau, en fait. Donc, Caravage, mauvais garçon, du côté des ténèbres, c'est pas si sûr aussi. Il est très, très, très amoureux d'une lumière possible, c'est une lumière douloureuse.
Et c'est une lumière qui surgit, qui bondit depuis le noir. Il défigure souvent ce qu'il peint. Il y a un autre tableau qui est extrêmement célèbre, c'est la tête de Méduse qui a été peinte, elle aussi, vers 1598, qui témoigne en un sens de ce que peut signifier un cri d'horreur.
Oui. Oui, c'est sur un bouclier, à l'imitation de Léonard de Vinci. Il a peint ça, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est sa tête. Et c'est la culpabilité qui le mène. Enfin, il va vivre. S'il y a quelqu'un qui a eu une vie intense, moi par exemple, j'aime passionnément Rimbaud, mais je pense que le Caravage a eu une vie encore plus intense, encore plus folle. Il a vécu tout.
Sa vie est un roman. Il y a la légende du mauvais garçon, vie fageuse, criminelle. Ensuite, il s'est battu en duel, noceur à la sexualité débridée. Il ira même jusqu'à tuer lui-même.
Oui. Et pour. Il a tué un sale type, par parenthèse. Bon, ça, c'est pas pour lui pardonner.
Mais il ne s'arrête jamais de peindre et d'être violent.
Mais je pense que précisément chez lui, et c'est très étrange et tout à fait passionnant, la violence fait partie de cet appétit de vivre et de peindre. Je pense qu'on a tort de croire que le Caravage peignait comme ça quelques heures par jour et qu'il allait se saouler. Non, il n'a fait que peindre constamment, mais pour rester au niveau de l'intensité que lui procure la peinture, et pour l'écriture c'est pareil, au fond, pour ne pas qu'il y ait de retombées, on veut que ça continue, on veut que la nuit soit encore plus belle. Et le Caravage, qui était un personnage apparemment un peu irascible, hein, pas commode du tout.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire.
Est allé très loin, beaucoup trop loin. Effectivement, il a éliminé un rival, en fait. Le proxénète, par parenthèse, du modèle qu'il a posé pour Judith.
Oui, d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on en parle, c'est une coïncidence, mais il y a des hasards objectifs. Parler du Caravage aujourd'hui, oui. Parler de Rome, oui. Parler de ces papes qui ont commandé des peintures de ce clair-obscur où les ténèbres sont toujours présentes, ça nous amène à poser la morale de l'histoire. Face à la peinture, on croit qu'on voit alors qu'on n'y voit rien. Cette phrase, elle est très célèbre. Oui. Elle est de Daniel Arras. Qu'est-ce qui, justement, fait qu'on n'y voit rien quand on voit le Caravage ?
Et moi, j'aime que d'abord, on n'y voit rien. C'est la peinture qui nous procure ce sentiment, cette sensation. Et à partir du moment où on oublie cette saturation des images dans laquelle on est plongé, on peut réapprendre à regarder. Je crois que la peinture nous réapprend à regarder.
Lorsqu'il disait adieu à un être aimé, les Romains ouvraient une fenêtre et d'une voix forte que l'on entende jusqu'aux collines scandait trois fois son nom. Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio. Ce sont les derniers mots de votre livre « La solitude Caravage » qui est absolument formidable. C'est publié chez Folio. Merci infiniment Yannick Enel d'être venu nous aider à comprendre ce génie qu'était le Caravage.
Merci.